Un Scudetto, une Super Coupe d'Italie, deux qualifications en Ligue des Champions, le tout en ayant perdu Osimhen puis Kvaratskhelia, mais des polémiques à répétition et une qualité de jeu discutable. Antonio Conte va quitter le Napoli à la fin de la saison. Le manager italien sera-t-il regretté par les tifosi napolitains? On en débat dans l'After Italy.
RMC, After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manuccia. Ciao Daniele.
Ciao, ciao Jérôme, ciao Loïc et ciao tout le monde.
Belle casquette Daniele.
Ah ouais.
Merci, vous pouvez la trouver sur le site en vente.
Ah ouais. Je crois que c'est afterfoot.shop, un truc comme ça, il me semble l'adresse. On va la retrouver d'ici la fin de l'émission. Loïc Moreau, elle est là.
Il y a
ça
aussi.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va.
Et avec Enzo également, supporter du Napoli. Salut Enzo.
Ciao, salut à tous.
Tu veux la casquette Enzo aussi ou ça va?
Il y a du soleil à Milan, donc je suis preneur.
Supporter du Napoli qui est basé à Milan, on le rappelle, d'où le rouge sur le côté qu'on peut voir derrière toi peut-être.
C'est indirectement lié, effectivement. Oui.
Bon, on va parler donc du Napoli, les garçons. Le Napoli qui va donc perdre son entraîneur Antonio Conte après deux saisons sur le banc de touche. Alors, on va commencer peut-être par le bilan comptable, le bilan des trophées, le bilan des résultats. D'abord, Lolo, ça donnait quoi le passage d'Antonio Conte sur le banc du Napoli?
Bah, ça donnait bien. Hein. Je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plus à Enzo. Je pense que c'est à lui en tant que supporter de faire le bilan. Non, si on fait un bilan chiffré, on va dire un peu objectif. Donc, ces deux saisons, Antonio Conte, c'est comme à son habitude. On sait que lui, c'est des cycles de deux ans. Bah, avec Naples, ça n'a pas dérogé à la règle. Ça aurait même pu s'arrêter plus tôt, hein, puisque tu te souviens, l'été dernier, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il pourrait partir. Donc avec un bilan de quasiment 2 points par match, une attaque, bon, on va dire un peu, t'es en dessous des 2 buts par match et un petit peu au-dessus des 1 but pris par match. Donc on l'a connu hein, quand même un peu plus solide dans ses anciens passages. Mais ce qui compte évidemment, surtout pour les supporters de Naples, bah, c'est forcément les titres et le Scudetto ramené la saison passée, la Supercoupe d'Italie dans une moindre mesure. Donc son bilan, effectivement, tu le disais en préambule, bon, au niveau en termes de jeu, c'était pas forcément dingo, mais Conte a fait du Conte, il a fait ce pourquoi il avait été embauché par Aurelio De Laurentiis.
Gagner des trophées, est-ce que ça te suffit, toi, Enzo, le supporter napolitain? Est-ce que le bilan pour toi de Conte, est-ce que c'est un succès?
Bah, si je regarde le bilan chiffré, effectivement, en termes de titres, la mission elle est plus qu'accomplie, surtout. Comme il a très bien su le dire, que quand tu gagnes un Scudetto à Naples, c'est comme si tu en gagnais 10 ailleurs. Ça, c'est une réalité. C'est que le quatrième Scudetto de l'histoire du club. Après, c'est toujours la manière auquel je suis attaché. Surtout quand tu sais que Naples, sur les 15 dernières années, c'est quand même une réputation d'un club qui joue au foot. Si on parlait des années Sarri, il y a eu Spalletti qui a aussi gagné avec la manière. Donc, sur les chiffres, je suis content. Sur le contenu de ce que j'ai pu voir de la saison, pour l'ensemble des matchs quasiment plus au stade, heureusement que parfois j'ai des choses à voir en tribune ou plus je suis avec les ultras pour chanter, parce que sinon je me suis ennuyé pendant la saison, quoi.
Daniel, et toi, en tant qu'observateur neutre du championnat italien, enfin neutre en l'occurrence neutre, quand on parle de Napoli, mais ouais. Qu'est-ce qu'on en dit en Italie du passage de Conte au Napoli? Est-ce qu'on considère ça comme un énorme succès, comme une surprise, comme une déception? Ça me paraît impossible, mais bon.
Non, on ne fait pas vraiment un bilan sur son histoire, parce que c'est, pour le moment, il y a vraiment un climat très amer par rapport à la manière dans laquelle il est en train de quitter Naples. Aujourd'hui, il paraît qu'il va y avoir un barbecue pour saluer les joueurs, mais ce n'est pas encore officiel, il va l'être bientôt. C'est les rapports avec les présidents, c'était une saison difficile où il a eu des problèmes objectifs, des problèmes qui ne dépendaient pas de lui, mais lui aussi, il n'a jamais été serein, il n'a jamais été tranquille dans cette saison, même dans les bons moments. Donc, on a compris qu'il était fatigué. En plus, je pense qu'il y a aussi un peu une fatigue Conte en Italie par rapport au fait qu'il est un peu en train de confirmer ses stéréotypes. L'idée que Conte, c'est un presse-citron, quoi. Un presse-joueur qui a sorti tous les gouttes qu'il y avait dans ses joueurs et là, il s'en va. Qu'il est bon pour une saison, mais la deuxième, c'est une déception. Qu'il est bon pour le championnat, mais il n'est pas bon pour les coupes internationales. Moi, j'ai pensé, franchement, personnellement, que Naples, ça aurait pu changer cette narration de Conte, qu'il aurait pu bien faire cette saison en Champions League, mais évidemment, ce n'est pas été le cas. Et donc, ceci est un peu triste, mais ça commence un peu à ennuyer, je pense aussi.
On va en parler des résultats en Coupe d'Europe, mais d'abord, je voudrais éclaircir quelque chose. Pourquoi tu dis que son départ crée quelques remous? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il part plutôt par la grande porte. Il renonce à sa dernière année de contrat. C'est quand même un contrat qui était assez énorme. On parle quand même de 18 millions d'euros, je crois, sur lesquels il a décidé de s'asseoir avec son staff. Pourquoi tu dis que ça crée des remous?
Non, c'est pas par rapport à, comment dire, à sa figure d'entraîneur ou son rapport avec la ville, mais c'est plutôt l'idée de Conte comme entraîneur. Je pense qu'il quitte Naples, ses quotations se sont un peu rebaissées par rapport à l'année dernière, au moins après la victoire du championnat. Parce que justement, il y avait attente pour sa deuxième année. On savait qu'il aurait pu bien faire la première année, qu'il aurait effectivement sorti tout ce qu'il y avait à sortir, le jus de cette équipe, qui était une bonne équipe. On l'avait vu aussi avec Spalletti avant. Mais on l'attendait à la deuxième saison. Et là, c'est une déception. Je me répète un peu, mais c'est une déception qu'on n'a pas vu arriver. Et donc, voilà, c'est pas une nouvelle. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que c'est pas une nouveauté. Ça a surpris personne qu'à la fin de la deuxième année, Conte, il part.
Mais moi, je vous trouve dur parce que la Naples est donc deuxième du championnat derrière l'Inter, qui est quand même largement au-dessus. L'année dernière, ils arrivent à être champions. Enfin, faudrait vraiment devenir très, très exigeant quand on sait d'où vient le Napoli. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Enfin, je vous trouve très exigeant avec Antonio Conte. Non, pour moi, ça me paraît. Enfin, le mec, il fait premier la première saison, deuxième la deuxième saison. Il gagne une Super Coupe d'Italie. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, Anzo?
Moi, je le prends au mot, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours dit être exigeant avec lui-même avant d'être exigeant avec ses joueurs. Donc, moi, je pense qu'en tant que supporter, j'ai le droit aussi d'être exigeant vis-à-vis des résultats. Et un entraîneur comme Conte, si tu ne gagnes pas avec, ça ne m'intéresse pas. Moi, si à la fin de la saison, je n'ai pas des trophées de par le jeu qu'il propose, je préfère ne rien gagner, mais avoir au moins du plaisir à aller voir les matchs, à allumer ma télé, ou à faire les déplacements et à manger les kilomètres que j'ai mangé toute la saison, durant toute la saison pour suivre l'équipe. Parce que moi, au début de la saison, quand j'ai vu l'effectif, c'était plus que prometteur. Je me suis dit, allez, le président lui a mis les cartes en main, on lui a pris des joueurs de top calibre, on a pris un Kevin De Bruyne, qu'on peut dire cramé, pas cramé, mais c'est un joueur qui, encore ce week-end, on a vu quand il est rentré, il a fait la passe, il a cette magie encore, il peut faire des différences. Pour moi, il y a eu une gestion dans l'ensemble de Conte depuis l'été dernier, depuis qu'il a gagné le.
Ouais, on t'a perdu. Il parlait des moyens qu'il a eu à disposition, Anzo, Antonio Conte. C'est effectivement un entraîneur, malgré le départ d'Osimhen, malgré le départ en cours de saison dernière de Kvaratskhelia, il a été soutenu par son président sur le marché des transferts.
Oui, parce qu'il en fait une condition sine qua non, Antonio Conte, pour venir dans un club, pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Eh ben, il exige de ses employeurs qui crachent au bassinet. Donc, effectivement, si on regarde depuis son arrivée, donc depuis 2024-2025, en Serie A, Naples est quand même le troisième club le plus dépensier derrière la Juve et l'AC Milan, avec plus de 300 millions investis sur le marché des transferts. Alors là, on parle vraiment juste des investissements. Naples aussi a bien vendu, mais quand tu regardes un petit peu dans le détail de ces investissements, il y en a eu qui ont été quand même costauds. Il y a eu Romelu Lukaku notamment, qui est venu sur demande d'Antonio Conte, puisqu'il l'avait eu notamment à l'Inter et à Chelsea. Et on a vu
Chelsea,
en plus que là il y a eu les relations sont envenimées entre les deux, donc même avec Antonio Conte, son père spirituel Lukaku, ça fonctionne pas. Mais bref, Il y a eu d'autres investissements, notamment cet été, et Enzo en parlait. Bekema, par exemple, plus de 30 millions pour Sam Bekema, qui n'est même pas titulaire indiscutable. Lorenzo Luca, qui est arrivé et qui est reparti aussi vite. Noah Lang, c'est peut-être le plus symptomatique. Là, ce sont des joueurs à plus de 20 millions d'euros. Et ce sont des joueurs qui sont, encore une fois, pas forcément dans le 11 de départ. Alors après, effectivement, il y a eu beaucoup de blessures à Naples. Ça, c'est quelque chose qui est indépendant d'Antonio Conte. Mais effectivement, l'argent investi, il n'a pas permis, si tu veux, de développer une équipe qui, derrière, où tu te dis, bah ouais, la saison prochaine, ça va forcément aller mieux. Scott McTominay, il était transformé l'année dernière, il était élu meilleur joueur de Serie A. Cette année, c'était plus compliqué pour lui. Donc, ouais, c'est le problème, c'est ce qu'on reproche à Conte un petit peu toujours, c'est d'arriver, de demander des investissements massifs qui sont de son fait à lui, c'est-à-dire il fait ses commandes et derrière, le club, suit. Mais de ne pas forcément laisser une équipe, bonifier après son passage.
C'est un joueur qui a quand même bonifié, qui a magnifié même quand même Scott McTominay. Lolo en parlait à l'instant. Daniele, c'est vrai que personne ne pensait que Scott McTominay, après son passage à Manchester United, enfin sa formation même à United, atteindrait le niveau qui a été le sien la saison passée. Et même cette saison, même s'il est peut-être un peu moins fort, ça reste quand même un des meilleurs joueurs de Serie A.
Oui, oui, bien sûr. Il a été blessé aussi cette saison et il fait partie des joueurs qui ont manqué à Conte, qui a beaucoup changé ses systèmes. Et McTominay, l'année dernière, il faut se rappeler, il était arrivé à dire que peut-être, dans les années de Manchester, il avait été misprofiled, c'est-à-dire il avait mis un peu dans la cage ratée. Ils avaient pensé que c'était un joueur défensif, lorsque c'était un joueur offensif. Conte, il a vraiment exploité tout son potentiel. Cette année, il a bien fait. Au début, il faut se souvenir aussi, le Naples a gagné les premières 5 matchs d'affilée, je pense, les premières 5 matchs. Naples était parti pour gagner la deuxième fois de suite les championnats. Et aussi, grâce au mercato dont on a parlé, on pensait qu'au moins, ça aurait été difficile pour l'Inter d'aller leur arracher les Scudetto. Et en plus, il y avait la Champions League. Bien sûr, on se disait peut-être la Champions League va enlever des énergies au championnat. Quand ils sont sortis au premier barrage en Champions League, on s'est dit, bon, Naples, sans la Champions League, ils vont aller mieux en championnat. Et en fait, non, c'était un peu un paradoxe d'un Naples qui allait les pires dans les moments où il y avait plus de joueurs à disposition, où Conte, il avait plus de choix. Quand il a eu moins de choix, il a pris des décisions fortes, il a changé des systèmes, mais il a toujours trouvé les solutions. Quand il avait le choix, il s'est un peu compliqué la vie. Mais oui, il y a des belles histoires dans ces Naples-là. Il y a des joueurs qui ont exploité leur potentiel, qui l'ont amélioré. Il y a du potentiel dans cette équipe, je continue à penser. Il y a beaucoup de gâchis. Loïc, il a bien fait de rappeler Noah Lang, mais il faut rappeler aussi Kvaratskhelia. Il n'est pas parti et Conte, il ne s'est pas arraché les chevaux quand il est parti. Là aussi, c'était un joueur qui était bien sûr le meilleur joueur du championnat italien, mais Conte, il n'arrivait pas à le faire bien jouer comme avant. Donc, quand il est parti, on s'est dit aussi, bon, peut-être c'est bien pour tous les deux. Et effectivement, Conte, il a bien fait aussi avec, sans Kvaratskhelia, mais avec David Neres. Donc, c'est vraiment une histoire très compliquée, celle de Conte à Naples, qui laisse du bon et des mauvais souvenirs aussi.
Allez, dans un instant, on va continuer. On va comparer d'ailleurs Antonio Conte avec ses prédécesseurs sur le banc napolitain. Puis, on va se projeter également sur la suite et pour Conte et pour le Napoli. À tout de suite. On est de retour dans l'After Italy, toujours avec Daniele Manoussia, avec Loïc Moreau et avec Enzo, supporter du Napoli. On parle du bilan d'Antonio Conte sur le banc napolitain, puisque le manager, après deux saisons passées et un scudetto remporté, va quitter la Campanie à la fin de la saison. Alors, Antonio Conte s'en va, mais pour tirer vraiment le bilan de ces deux années passées sur le banc napolitain, Lolo, tu t'es amusé à regarder et à comparer son niveau de performance avec ses deux prédécesseurs. Ça donne quoi ?
En fait, on a fait Et on l'a comparé avec tous les entraîneurs depuis Walter Mazzarri. Mais il s'avère qu'effectivement, il y a un top 3 dans ces entraîneurs qui ont performé. Et sans surprise, il s'agit de Maurizio Sarri, Luciano Spalletti et Antonio Conte. On voit qu'effectivement, Sarri arrive en tête en termes de points par match. 2,16, c'est un tout petit peu mieux que Luciano Spalletti et ses 2,10. Et Antonio Conte est juste un cran en dessous à 1,98. Effectivement... et là, ça m'intéresserait d'avoir l'avis d'Anzo, parce que si tu regardes Spalletti-Conte, tu te dis, bon, les deux derniers qui ont gagné un Scudetto, puisque chacun. Sarri, lui, n'y est pas parvenu, tu te dis, c'est hyper proche en termes à la fois de match, puisqu'ils restent tous les deux ans, ils ont donc à peu près le même palmarès, et en termes, effectivement, de points pris par match, c'est ISO, mais tu as quand même l'impression qu'avec Spalletti, c'était le Naples, c'était la saison où ils ont roulé sur tout le monde en Serie A, et là, avec Conte, à la fois l'année dernière, tu gagnes le Scudetto parce que l'Inter le perd, et là, cette année, comme disait Daniele, t'existes pas à partir de la deuxième partie de saison.
Anzo, t'en penses quoi, toi ? S'il y a un des deux entraîneurs qui t'a le plus marqué, ou même un des trois qu'on voit là, entre Sarri, Spalletti et Conte ?
Ce qui va être bizarre, c'est que pour moi, ça va être Sarri. Ça va être Sarri parce que avec les joueurs qu'il avait à disposition, il avait un Kalidou Koulibaly, il avait un Faouzi Ghoulam, il a eu l'idée de reprendre Mertens après la blessure de Milik, de le faire jouer faux numéro 9, et Mertens qui est devenu meilleur buteur de l'histoire. La fameuse phase de jeu Insigne pour Caleron au deuxième poteau. Le huitième de finale contre le... Enfin, il a laissé une empreinte et un goût d'inachevé avec la saison à 91 points, avec le but de Koulibaly contre la Juve à 3 journées de la fin, qui en fait, voilà, en termes d'émotion, et c'est ça le foot à Naples, c'est des émotions quand même avant tout, parce qu'on parle de points, on est sur une analyse très, très pragmatique, mais Naples aussi, c'est surtout ça, c'est la façon dont on vit le foot, la passion, et cette passion, on l'a retrouvée, et le mixte que tu trouves entre Sarri et Conte, tu l'as en finale sur Spalletti, parce que Spalletti, t'as le beau jeu et les résultats qui sont allés avec, donc preuve que ce n'est pas incompatible. Et en fait, on a juste envie de retrouver ça, au moins à Naples, même si aujourd'hui, ce qui est très bizarre, j'ai plein d'échanges sur des groupes WhatsApp avec des Italiens, des Napolitains, et ils pleurent tous le départ de Conte, parce que pour eux, c'était la certitude d'arriver entre un premier et une deuxième place en Serie A. Donc, on se contente d'être protagoniste en Serie A sans forcément l'être en Europe et sans pour autant attacher une importance à la façon dont tu es protagoniste. L'important, c'était d'avoir les points et de donner fastidio, de donner des difficultés aux équipes du Nord. Et de savoir qu'il y avait Conte sur le banc, c'était la fierté de dire « Ah, bah vous voyez, pour une fois, c'est pas le Milan, c'est pas l'Inter, c'est pas la Juve qui a Antonio Conte, c'est un club du Sud ». Et c'est le Napoli, et en plus on a gagné avec Conte sur le banc. Et c'est tout ça, c'est tout ce paradoxe-là qui vient être mis aujourd'hui auprès des supporters. Mais pour moi, j'attends de retrouver du jeu.
Alors, ce qui ternit, donc, on l'a dit aussi, le bilan d'Antonio Conte, c'est ses résultats sur la scène européenne, avec notamment ce raté cette saison en Champions League. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une limite assez historique chez Antonio Conte. Quel que soit le banc sur lequel il s'est assis, ça n'a jamais fonctionné en Champions. Qu'est-ce qu'on en dit, ça, Daniele, en Italie ? Comment on explique cette incapacité d'Antonio Conte à performer en Ligue des Champions ?
C'est, tout simplement, on dit que c'est ses limites. C'est les limites de ses idées, les limites de son jeu. Que c'est un jeu défensivement très attentif, très dur. Après, je pense qu'il y a beaucoup de... on simplifie beaucoup en disant ça. Moi, je pense que le jeu de Conte, ça pourrait s'attacher à l'Europe. Il y a eu d'autres raisons. Cette année aussi, il y a eu les raisons de blessures et tout ça. Je pense qu'il a beaucoup changé aussi cette année. Il a montré qu'il n'est pas l'entraîneur 3-5-2 forcément toute sa vie, même si justement le changement cette année, c'était de passer du 4-3-3 de l'année dernière, parce qu'il a gagné avec les 4-3-3. Et après, il est repassé au 3-5-2, mais il a dû changer. Il a trouvé la manière de faire jouer De Bruyne, McTominay, Anguissa, les quatre ténors, on va dire, tous ensemble. Ça n'a pas duré longtemps. Il a trouvé la manière de mettre Alisson Santos vers la fin dans le jeu. Il a retrouvé la manière de faire jouer Højlund et Lukaku ensemble, si Lukaku ne s'était pas blessé encore une fois. Et Lukaku aussi, c'est une grosse, quelque chose qui a manqué à Conte. Mais je pense que oui, d'un côté, les résultats le confirment. C'est-à-dire, ses limites sont surtout en Europe, contre l'élite. Il arrive à gagner dans une compétition longue, où il faut usurer les adversaires, où il faut gagner petit pas pour petit pas, mais il n'arrive pas à gagner les gros matchs, là où il y a les gros adversaires. même si parfois les résultats ils contredisent ça, parce que cette année aussi il a fait des bons matchs dans des, contre les équipes les meilleures en Italie et il a perdu des points contre les petites. Donc c'est très compliqué, mais je pense que Conte il a confirmé les stéréotypes qu'il y a sur, sur ses limites en Europe, et ça c'est un peu dommage.
Alors parlons maintenant de l'avenir. On nous reste quelques minutes pour évoquer l'avenir et d'Antonio Conte et celui du Napoli. Qu'est-ce qu'on dit, Lolo, de l'avenir d'Antonio Conte d'abord?
Son nom, il revient pour retrouver le poste de sélectionneur de l'Italie. On rappelle, hein, l'Italie ne jouera pas de Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive, hein, Daniele. Et du coup, voilà, il y a un sélectionneur. Ouais, c'était vraiment pour enfoncer le clou.
Remuer le couteau dans la plaie.
Et du coup, Antonio Conte fait partie des deux noms avec Max Allegri, les plus chauds qui reviennent. Là, ces derniers jours, notamment du côté de la Gazzetta, ça annonçait effectivement son retour. Et puis après, pour le remplacer à Naples, bon, là, c'est un peu comme à chaque fois, à chaque départ d'un entraîneur en Italie, t'as à peu près c'est pas une short list, c'est une longue liste, tu vois, d'à peu près une quinzaine de noms. Mais le nom le plus chaud, c'est celui de Maurizio Sarri, qui a donc déjà entraîné Naples entre 2015 et 2018. Enzo l'a rappelé.
Ça marche, les comeback en Italie ou pas, quand on rappelle, parce que c'est pas la première fois, hein, c'est même quasiment, il y a comme une sorte de consanguinité là, les mêmes qui à chaque fois se changent de bande touche.
J'aimerais bien avoir l'avis de nos amis, mais c'est vrai que nous, quand on s'est dit Sarri qui pourrait revenir à Naples, on s'est dit mais attends, c'est bizarre quand même. Bon voilà, souvent les retours, on va dire, sont pas très fructueux. On a creusé un petit peu, effectivement, quand tu vois Max Allegri, deuxième passage à la Juventus, c'est compliqué. Fabio Capello aussi, deuxième passage au Milan, catastrophique. Sarri, son retour à Lazio, pour l'instant, c'est quand même pas dingo. Roberto Mancini avait tenté ça avec l'Inter. Mazzarri aussi, bon, alors c'était plus dans le rôle de pompier de service avec Naples. Même Arrigo Sacchi et Giovanni Trapattoni, les entraîneurs historiques, avaient tenté avec, respectivement avec Milan et la Juve. En fait, en gros, il n'y a que Marcello Lippi, quand il revient à la Juve, et Luciano Spalletti, son deuxième passage à la Roma, où on s'est dit, voilà, là, c'est une exception qui fonctionne. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'en pensent Enzo et Daniele, mais Sarri de retour à Naples, moi, ça me fait de la peine, limite.
Non, je disais Sarri, oui, ça fait de la peine d'une certaine façon parce que ça montre qu'il manque d'idées et qu'entre-temps, il n'y a pas forcément un entraîneur italien qui propose les mêmes solutions en termes de jeu avec un 4-3-3 où tu fais de la possession et même si peut-être un Farioli pourrait être étudié. Je sais que c'est un des noms aussi qui revient souvent du côté de Naples. Après, c'est ce que j'ai dit à peine avant aussi, il y a ce sentiment d'inachevé où avec une moyenne de 2,16 points, tu devais gagner à minima le titre de 2017 et de pouvoir donner la possibilité à Sarri d'aller le chercher, qui a gagné entre-temps avec Chelsea, avec la Juve. D'un point de vue supporter, pourquoi pas? Après, oui, c'est vrai que ce n'est pas très frais en termes de renouvellement et en fait, pour faire quel projet, c'est quoi derrière? C'est qu'est-ce qu'on a autour? C'est quoi le mercato? C'est quoi le directeur sportif? Qu'est-ce qu'on veut faire autour? C'est quoi le but? Ça sent qu'on est dans l'année du centenaire pour le club. Donc, il faut faire belle figure.
Ça manque quand même d'originalité, ça manque d'idées neuves, j'ai envie de dire, Daniele, de rappeler Maurizio Sarri, si Maurizio Sarri s'assoit vraiment sur le banc du Napoli.
Oui, le manque d'imagination des dirigeants italiens est frappant, on le voit, et c'est toujours les mêmes noms, vous avez raison. Et surtout, c'est toujours les mêmes noms de gens qui jeunissent pas, qui vieillissent. Ça devient une gérontocratie en Italie. Sarri, on a vu les photos de quand Sarri était à Naples. Si on regarde les photos d'aujourd'hui, ça change beaucoup son aspect. C'est quelqu'un de très fatigué, Donc, je vois vraiment pas comment ça peut. Son jeu, il a vieilli aussi. On le voit semaine par semaine à Lazio. Le jeu de Conte, il avait vieilli quand il était revenu en Italie, parce que lui aussi, c'était un comeback. Il serait un comeback aussi sur le banc de l'équipe italienne. Donc, il n'y a que des comebacks. Comme si on avait un passé glorieux à ressortir de la boîte. Notre passé glorieux, c'est ils sont morts peut-être, les entraîneurs à appeler. Donc, il faudrait essayer quelque chose de nouveau. Mais il y a des différents noms. Il y a Italiano, je ne sais pas si on l'a dit. Mais je pense qu'on n'a pas le courage en Italie. Il n'y a pas le courage de se dire on va risquer. Et c'est vrai qu'une équipe comme Naples, ils ont fait beaucoup d'investissements. Et c'est vrai ce qu'il a dit Enzo, il faut gagner, il faut essayer de gagner. Mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas revenir à lutter pour la cinquième, quatrième place. Parce que là, ça serait gravissime pour De Laurentiis de perdre de l'argent. Il ne faut pas toucher aux poches des présidents italiens.
Un dernier mot peut-être, Hanzo. Qu'est-ce qu'on en sur le mercato des joueurs? Qui va rester? Qui va partir? Quelles sont les tendances dans l'effectif napolitain?
Ah bah, déjà, il y a eu la bombe début de semaine d'un pseudo-journaliste, je ne sais pas comment tu le qualifierais, Daniele, Corona, qui a lâché une bombe sur le vestiaire avec Meret qui aurait payé pour faire sortir des informations sur Conte, tout ce genre de choses, et avec des joueurs justement en fin de contrat, Léon Guissal, Lobotka, Rahmani, tous les piliers du club des 3-4 dernières années, ou en tout cas des joueurs qui ont gagné le Scudetto, qui auraient œuvré en coulisses pour faire partir Conte, et qui menaçait de ne pas renouveler ce qui comptait rester sur le banc. Donc, est-ce qu'on veut garder des joueurs qui ont eu cet attachement vis-à-vis de l'entraîneur? Je ne sais pas. C'est des joueurs qui ont gagné, donc ça sera toujours difficile. Après, ce que j'aimerais, c'est un peu rajeunir l'effectif, parce que tous ces noms-là, c'est vieillissant. Politano, Spinazzola, Ramanis a plus de 30 ans, Lobotka aussi a passé les 30 ans. Le discours des gardiens, pour moi, qui est complètement à traiter, parce que Milinkovic-Savic a été désastreux pour moi pendant cette saison. Il n'a absolument rien apporté, alors qu'on attendait de lui que ce soit le meilleur gardien au pied. Et ça, en tant que gardien moi-même, cette notion de gardien qui doit être meilleur avec ses pieds qu'avec ses mains, c'est horrible à entendre. Et en plus, il est le 10e au classement parmi les gardiens avec le meilleur taux de passe réussi. Donc, preuve que ça n'a pas du tout été probant. Mais il tire bien les pénaltys, on est content. Et puis avec un Meret qui est aussi, pour moi, arrivé en fin de... Donc, retrouver une colonne vertébrale. On doit avoir une colonne vertébrale. On a Ouliou qui est confirmé aujourd'hui, qui sera l'attaquant de pointe la saison prochaine, c'est certain. Et après, c'est quel sera le milieu, quel sera le défenseur central sur lequel on misera, et élucider ce problème du gardien.
Bon, on a quand même l'impression qu'il va falloir rajeunir cet effectif-là, effectivement, et ça dépendra aussi beaucoup de la philosophie et du choix de l'entraîneur. Merci Hanzo, merci Daniele. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le départ d'Antonio Conte à venir, à confirmer du Napoli. On va surveiller évidemment tout ça durant tout le mercato estival en Italie. On se retrouvera évidemment l'année prochaine pour un dernier épisode de la saison de l'After Italy. D'ici là, vous pouvez nous écouter évidemment en podcast, en téléchargement sur toutes les plateformes. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
RMC After Italie.